RMC Motors. Laurent Frédéric Bollet.
Bonjour à tous, 13h05 sur RMC. Dans Motors aujourd'hui, on va évidemment parler Formule 1 avec le sacre le week-end dernier de Lewis Hamilton. Quelle place a déjà le pilote britannique dans l'histoire de la F1? On se posera la question. Et en parlant de champion du monde, on va dans quelques secondes donner la parole à Sébastien Ogier, le quintuple champion du monde des rallyes, qui est notre invité exclusif aujourd'hui. Et pour être à la hauteur d'un tel invité prestigieux, eh bien j'ai demandé à Patrick Rivet, mon ami Patrick, d'être avec moi aujourd'hui, le directeur de la rédaction de Motorsport TV, grand spécialiste de rallye. Salut Patrick.
Salut LFB, salut à tous.
Oui, parce qu'il fallait être au moins deux pour recevoir sa majesté Sébastien Ogier.
C'est ça.
Alors, juste avant de l'accueillir, Patrick, on va tout de même faire un petit détour, si tu veux bien, par le Havre. D'abord, on va prendre la direction du Havre, parce que c'est là que dans moins d'une demi-heure va être donné le départ de la Transat Jacques Vabre. Camille Gelpi est l'envoyé spécial d'RMC. Salut Camille.
Salut à tous.
Bon, ça va, tu tiens le coup et tu es dans le compte à rebours, hein.
Effectivement, et c'est des conditions assez difficiles en mer, là, d'énormes vagues, d'énormes creux pour atteindre la ligne de départ qui se trouve donc un petit peu au large du port du Havre, la ligne de départ qui sera matérialisée entre le bateau Comité et le cap de la Hève au large donc du Havre. 37 bateaux prendront le départ. Il y aura d'un côté les maxi trimarans, les multicoques, ceux qui ont trois coques, et puis de l'autre côté les Imoca et les classes 40, des bateaux un petit peu plus petits, des monocoques, mais tous prendront le départ en même temps, départ qui sera donné à 13h35, mais d'ici là il faut arriver au bout, et je peux vous dire que c'est des conditions bien corsées.
Bon, et bien courage Camille, on te retrouve bien évidemment tout à l'heure pour le départ proprement dit. Et puis petit détour également pour le rugby, le top 14, la 9e journée, Brive, Stade Français, c'est Julien Tellier qui est sur place, salut Julien.
Salut, et t'arrives juste pour le deuxième essai du Stade Français, Paris qui menait déjà 7-3 sur la pelouse briviste et qui mène désormais 12-3 avant la transformation que va tenter Mornestein. Magnifique essai pour les Parisiens signé par l'ailier Djibril Camara sur une touche perdue par les Brivistes dans les 22 mètres du Stade Français. La relance initiée d'abord par Vaïséa et ensuite un magnifique jeu avec Vaïséa, Tony Ensor et donc Camara qui va conclure sous les poteaux. La transformation sera facile pour Mornestein. 33 minutes de jeu, 12-3 et probablement 14-3 pour les Parisiens qui font un bon match ici à Brive, et en plus les Brivistes qui leur rendent beaucoup de ballons. C'est compliqué pour Brive, et pour l'instant le Stade Français fait un excellent match. Transformation qui passe pour Mornestein, et donc 14-3 pour le Stade Français à Brive après 34 minutes de jeu, pardon.
Ok Julien, c'est noté, à tout à l'heure.
RMC Motors.
90, 150 mètres, droite ligne, droite 120.
Le briefing.
Allez, le briefing, et nous déroulons le tapis rouge pour recevoir donc un invité prestigieux. Il nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui en direct dans Motors. C'est monsieur Sébastien Ogier, quintuple champion du monde des rallyes. Salut Seb.
Salut, bonjour à tous.
Eh ben écoute, Patrick et moi, on est vraiment très très fiers de t'accueillir parce que effectivement, tu es depuis la semaine dernière 5 fois champion du monde des rallyes. Tu es allé conquérir ta 5e couronne le week-end dernier du côté du Pays de Galles. Et on va y revenir si tu veux bien. Et puis on a plein de questions à te poser. Vraiment, ça nous fait très plaisir de t'avoir. C'est ma première question, elle est assez évidente. Tu t'en doutes. C'est une semaine après. Dans quel état d'esprit es-tu? Est-ce que tu es toujours sur un petit nuage? Est-ce que tu c'est un peu retombé? Bon voilà. Qu'est-ce que tu ressens exactement?
Non, tout simplement, je pense un sentiment de satisfaction, heureux bien sûr d'avoir atteint l'objectif qu'on s'était fixé cette année. Et c'est sûr que les jours qui suivent, tout d'abord j'ai été assez fatigué parce que je pense que ça a été un week-end intense, mais c'est sûr que on va dire que la pression de la saison est un petit peu retombée et que du coup je savoure cette victoire.
Ouais, tu as bien le droit de la savourer. Je voudrais juste te faire écouter un petit quelque chose, pour revenir juste sur ce moment clé où tu as été titré une nouvelle fois.
Et ça y est, ça vient de tomber. 5e titre de champion du monde pour Sébastien Ogier.
Il devait prendre un point lors de la Power Stage, dernière spéciale du rallye de Grande-Bretagne. En la terminant à la 4e place, Sébastien Ogier est devenu champion du monde des rallyes à une course de la fin du championnat.
Penser qu'un jour il viendrait champion du monde, non. En fait, sachant en plus que nous, on est quand même d'une famille, on va dire, modeste. Et c'est par sa persévérance, par sa... Bon, c'est un bâtard, un gagneur.
Avec désormais 5 titres de champion du monde au palmarès, Sébastien Ogier devient le deuxième pilote rallye le plus récompensé de l'histoire.
Ouf, c'est moi le roi de la route.
Alors Sébastien, tu as reconnu la voix de ta maman qui était là, qui a témoigné à notre micro pour célébrer en quelque sorte aussi ton titre. C'est important pour toi cette présence un peu familiale autour?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Ma mère en particulier, mon père aussi, ont toujours été là la plupart du temps sur les rallyes européens. Et c'est vrai que c'est depuis le début de ma carrière, mes supporters numéro un, on va dire. Et même si elle vit des moments difficiles les week-ends de course, parce que c'est sûr que la pression, la peur qu'il m'arrive quelque chose est toujours omniprésente, mais c'est sûr qu'elle apprécie aussi, elle savoure ses victoires et c'est un petit peu les leurs aussi parce que, comme je l'ai dit, ils m'ont toujours supporté depuis que je suis né, je vais dire.
Patrick Rivet est donc avec nous. Il a tenu à être là,
bien
Patrick,
sûr,
hein, pour
te poser quelques questions. Déjà, pour une raison très simple, c'est que j'étais au Pays de Galles aussi pour Motorsport TV. Ensuite, au mois d'août, on avait eu une petite conversation sur cette même antenne, tous les deux, et tu m'avais dit, eh bien, on se retrouvera pour le cinquième. Mais merci d'avoir tenu parole. Déjà, c'est fabuleux d'avoir pu le faire. Moi, je vais revenir aussi sur cette arrivée, justement, où il y avait ton père, il y avait ta mère, et surtout, il y a eu des larmes aussi. Et elles ont marqué un petit peu tout le monde autour de la voiture, ces larmes, parce que, quelque part, tu ne nous avais pas donné cette habitude-là. Il y avait déjà eu 4 titres, et on a l'impression que celui qui t'a procuré le plus d'émotions, ça a été celui-ci.
Ouais, c'est toujours difficile à décrire. Comme je disais, après l'arrivée, les émotions, c'est quelque chose qui se contrôle pas vraiment, et c'est vrai que sur le coup là, j'ai eu les larmes, les larmes beaucoup plus que d'habitude qui me sont venues, et quelque part, ça me rend heureux de voir que l'émotion était débordante à ce moment. Ouais. L'intensité peut-être de la saison qui a fait que on va dire l'issue du championnat était un petit peu plus incertaine que les saisons précédentes, donc je sais pas, c'est peut-être pour ça que sur le moment j'ai été plus émotif. Après, je pense que les saisons précédentes j'étais aussi heureux d'avoir le titre, peut-être que finalement je m'y attendais un petit peu plus, on va dire, parce que la marge au championnat était plus grande, donc du coup l'émotion était peut-être un peu plus étalée dans le temps, alors que là elle arrivait un petit peu plus d'un coup.
C'est vrai que si on regarde cette saison et ce cinquième titre, ce n'est pas faire injure à ton palmarès, Sébastien, que de dire que t'es pas le meilleur performeur jusqu'à maintenant de ce championnat. T'as gagné 2 courses, mais c'est le championnat et c'est peut-être le titre de quoi ? De l'opportunisme, de la maturité, de la clairvoyance, de l'intelligence étalée sur toute une saison.
Ouais, alors ça va être difficile de mettre les bons mots, mais c'est sûr que. C'est sûr que la façon dont on a géré notre championnat a une fois de plus payé. Je pense qu'on a réussi à être plus intelligent que les autres. Ça c'est sûr. Après, on savait depuis le départ que ça allait être une saison difficile au niveau de la performance. On avait fait le choix de rejoindre un sport, le team le plus modeste du championnat et qui n'était pas forcément très rapide des saisons précédentes. Donc, on savait que ça allait être un gros challenge à relever. Malgré tout, la voiture est plutôt bonne. Alors, je pense la plupart du temps un poil moins rapide que les autres, mais en tout cas fiable et en tout cas le compromis était bon sur l'ensemble du championnat. Et au vu de ce paramètre-là, c'est sûr que je savais qu'il fallait être le plus régulier possible, comme toujours. Hein, c'est toujours une qualité pour gagner les championnats. Il faut essayer de marquer des gros points chaque week-end. Et même dans les week-ends où on était un petit peu moins perfo, où c'était pas possible d'aller chercher la victoire, on s'est accroché. Et à chaque fois, la plupart du temps, on a réussi à monter sur le podium. 9 podiums en 12 rallyes, je pense que c'est un très beau bilan. Et c'est le même bilan que les saisons précédentes, plus ou moins au niveau du nombre de podiums. Après, c'est vrai qu'il y a un peu moins de victoires, mais voilà, ce manque de perfo, plus aussi, toujours la même histoire. À partir devant sur l'ensemble du championnat, c'est toujours le même paramètre compliqué qu'on arrivait peut-être par le passé à compenser un peu plus. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, ce qui compte, de toute manière, est-ce qu'on retient tous en fin d'année, c'est le championnat. Et de ce point de vue-là, on a réussi notre pari.
Bah écoute, t'as tout à fait raison. Moi, je défends aussi complètement l'idée, mon cher Seb, que ton titre, c'est peut-être le plus beau. Parce que quand je revois tes stats, oui, en 2013, ton premier titre, tu gagnes 9 rallyes sur 13. Bon, là, il n'y a rien à dire. OK, c'est dominator, t'as écrasé la concurrence. Mais aujourd'hui, quand je constate que tu n'en gagnes que, je mets ça entre guillemets,
oui,
bien sûr, que 2,
hein.
Et que tu es malgré tout champion du monde à une manche de la fin, parce que n'oublions pas qu'il y a l'Australie là dans 15 jours. Bon, moi je dis que c'est encore plus fort peut-être, je te le dis franchement.
Non, mais en plus je pense qu'on vient d'assister à un des championnats les plus disputés de l'histoire du WRC, j'ai envie de dire, en tout cas.
Ça fait très longtemps qu'il n'y avait pas eu 7 vainqueurs.
Des années 2000, je pense que il y a rarement eu autant de vainqueurs différents, autant d'équipes capables de gagner, les 4 équipes présentes dans le championnat. championnat ont gagné au minimum deux courses, ce qui prouve bien que c'est un championnat très ouvert et qu'il fallait rien lâcher. Je pense que les fans ont apprécié parce qu'il y a souvent eu des batailles très très intenses, coup de dixième à coup de seconde, et tant mieux pour le sport. Et c'est sûr que pour nous, sortir vainqueur d'une telle bataille, bah, c'est toujours très très satisfaisant.
Sébastien Ogier, toujours notre invité hein, sur RMC, notre nouveau, mais c'est la cinquième fois de suite champion du monde des rallyes. Patrick, tu étais présent sur place et tu as été témoin d'un phénomène finalement rare. Seb, tu le sais aussi bien que nous, on te l'a dit déjà. C'est la première fois sur cinq que tu es champion du monde sans gagner le rallye en question, qui te permet d'être champion.
Vrai. C'est vrai.
Alors Patrick, comment tu l'as trouvé notre Seb sur place le week-end dernier?
Je dirais tendu vers cet objectif de titre en fait. Et là aussi, je sais pas, tu vas peut-être me contredire Sébastien, mais après tout, tu es là pour ça. On a eu l'impression qu'à un moment donné, excuse-moi le mot, mais t'étais un petit peu timoré, surtout le samedi. Mais quand il a fallu sortir le grand jeu, eh ben tu l'as fait avec trois. Alors, là aussi, il faudra que tu m'expliques. On en a parlé d'ailleurs à la fin. Comment t'as pu faire un chrono pareil dans la 16e spéciale où t'avais eu un problème mécanique dans la précédente, une touchette, et t'avais que trois disques de frein sur quatre. Et c'est là qu'on a retrouvé... Quand t'as retrouvé le pilote qui est capable de sortir un grand jeu énorme avec un handicap mécanique, alors que juste avant, ben, on te sentait un petit peu coincé aux entournures dans la combinaison. J'ai raison ou pas?
Bah, disons que ça a été un week-end difficile à gérer, pour être honnête. Le RAC au Rallye de Grande-Bretagne, c'est toujours un rallye avec des conditions ultra piégeuses, et c'est clairement des conditions où c'est difficile de se dire on assure, parce que dans toute façon, si tu commences à assurer dans des conditions aussi glissantes, tu tombes dans un faux rythme et tout de suite largué en fait pour la course aux avant-postes. Donc finalement, je voulais essayer de pas trop prendre de risques, mais la course a tellement été disputée une fois de plus, et tout le week-end hein, entre le deuxième et le sixième, on va dire, il y avait une dizaine de secondes la plupart du temps qui nous séparaient, ce qui veut dire que c'était difficile de d'assurer. Alors pour la victoire, bien sûr, c'était pas possible ce week-end parce que Finn Evans avec les pneus d'Ema qui on peut le dire était hors du coup toute la saison. Et complètement, je veux dire, les Michelin étaient comme une fois de plus au-dessus du lot pour l'ensemble du championnat. Maintenant, le règlement oblige à avoir seulement deux pneus différents, deux gommes différentes pour l'ensemble du championnat, et forcément avec des conditions extrêmes comme le RAC, Dimac qui avait joué la carte d'une seule course dans l'année en essayant d'obtenir leur première victoire, et cette fois-ci ils ont réussi leur pari, et c'est sûr que du coup Elfyn Evans était hors de portée ce week-end. Donc on va dire, on se battait tous pour être le meilleur des Michelin.
Ouais,
et entre 2 et 6, c'était tellement serré, on n'a rien lâché. Tu viens de parler du samedi soir où il y a eu deux spéciales extrêmes à disputer de nuit, avec une dans le brouillard où on n'y voyait vraiment, vraiment rien. C'était des conditions, honnêtement horribles, hein, parce qu'on ne prend pas de plaisir dans ces moments-là, mais c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut faire des grosses différences. Et on était en train d'en faire une belle, je pense, mais malgré tout. Proche de la fin de cette spéciale, on a fait une touchette, je sais même pas exactement quoi, parce que dans le brouillard, c'est rien à venir. Mais en tout cas, on a touché quelque chose, on a crevé à l'avant gauche, ça a aussi cassé un bout de la jante et par la même occasion le disque de frein, ce qui veut dire qu'on a dû effectivement bricoler un petit peu entre les deux spéciales de nuit dans la boue avec seulement 10-12 minutes pour trouver une solution et rétablir un peu des freins sur la voiture. Et heureusement, j'ai réussi effectivement à neutraliser, en gros à bloquer le circuit de frein avant gauche qui était endommagé, et ensuite purger le reste du système pour finalement avoir encore 3 disques de frein qui fonctionnent pour finir la dernière spéciale du jour. Et c'est vrai que c'était un gros soulagement d'être à l'arrivée le soir et de voir qu'on avait perdu si peu de temps avec une voiture quand même pas en super forme, et qu'on venait de faire une super opération en remontant à la deuxième place.
Et ça restera aussi une des images, je pense, hein, de cette saison, c'est de te voir avec les mains pleines de terre, la combinaison pleine de boue, parce que voilà, il y avait tout. Mais c'est extraordinaire.
J'ai rarement pris une douche le soir à l'hôtel où l'eau coulait aussi marron.
Oui, c'est vrai que ça a été une image qui a marqué tout le monde, mais tu es allé conquérir ce titre. Alors tu sais que je me suis penché sur mes petites archives, Seb, et tu es intervenu pour la première fois dans cette émission Motors le dimanche 6 avril 2008. Eh oui, je te le dis, tu revenais du Mexique où tu avais gagné en junior WRC cette manche mexicaine, et tu avais même marqué un point en mondial. Et j'ai retrouvé dans mes petites notes, j'avais noté en dessous, souligné, moniteur de ski. tu vois, on éprouvait le besoin de te présenter
mon métier
comme...
à l'époque, j'étais
oui,
pas encore
c'est assez, ça que ça veut dire hein.
Ouais, commencer tout juste ma carrière professionnelle, on peut dire, mais
voilà.
C'est vrai qu'en 9 ans, il s'est passé pas mal de choses aussi,
voilà.
Dans les statistiques du week-end, là, on avait commencé au rack en WRC, on avait fait notre premier temps scratch dans la spéciale de Sweetland, et on y a établi ce week-end notre 500e temps scratch,
donc en 9 ans...
Pas mal de belles choses, et c'est vrai que j'aurais signé pour moins que ça.
Donc voilà, le moniteur de ski est devenu, mais je sais qu'il le voulait, hein, Patrick. On sentait qu'il y avait de l'ambition et de l'orgueil chez toi, hein, Seb. Je te le dis franchement. ça s'est très vite senti. D'ailleurs, je voudrais juste te faire entendre une petite interview réalisée aussi du côté de la Grande-Bretagne le week-end dernier. Tu vas tout de suite reconnaître de qui il s'agit. Il parle de toi.
Aujourd'hui, c'est lui qui gère le mieux son championnat, qui a été capable de changer d'équipe, qui est capable d'accepter de pas forcément toujours pouvoir gagner et de marquer des points en pensant à son championnat. Et jusqu'à aujourd'hui, il l'a très bien fait. Donc, quelque part, il le mérite largement.
Il le mérite largement. C'est Sébastien Loeb qui le reconnaît. D'abord, je pense quand même qu'on l'aurait contredit s'il n'avait pas dit ça au moins. Tu es content de l'hommage quand même.
Bien sûr. C'est sûr que ça fait plaisir de le voir un peu. On s'était vu le week-end d'avant déjà au Rallye des Jambes là en Italie. Et puis qui sait, peut-être qu'on va se revoir un petit peu plus à l'avenir. Parce qu'il a l'envie de peut-être revenir faire quelques courses. Donc bon, nous, il faut aussi qu'on se décide et qu'on trouve et qu'on valide notre solution pour le futur. Mais en tous les cas, il y a des chances peut-être qu'on se recroise d'un peu plus près. À l'avenir.
Bon, attends, tu vas pas t'en sortir comme ça. Il reste 2 minutes à passer ensemble.
Oui, non,
mais oui, ça c'est sûr qu'on allait y aller.
C'est le joker du moment. J'ai pas de réponse, j'ai pas de scoop du dimanche à annoncer.
Bon, tu n'as pas de scoop à nous annoncer, mais enfin, nous allons quand même te poser la question. On se pose beaucoup de questions justement sur ton avenir, Seb. Tu es chez M Sport, pilote Ford, même si c'est privé. Tu es courtisé, on le sait, enfin, on l'imagine. Bah, par tout le monde, enfin on veut le croire, par Citroën, oui, par Hyundai, on l'imagine aussi. Et puis on sait pas trop ce que ça peut faire, tout ça. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, dimanche 5 novembre, en direct sur RMC? Nous t'écoutons, Seb.
Ouais, la seule chose que je peux dire, c'est que dans tous les cas, le championnat 2018 arrive à très grands pas, hein, parce qu'on a un peu plus de 2 mois ou 2 mois et demi, on sera déjà à Monte-Carlo, donc... Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être décidé très vite. De toute façon, on a la dernière course dans un peu moins de 2 semaines en Australie, et je pense que à ce moment-là, je devrais être capable d'annoncer quelque chose au niveau de mon avenir.
Bon, c'est déjà ça au niveau du timing.
Rassure-nous déjà. tu parlais tout à l'heure de cette émotion qui quelque part t'as submergé, quelque part t'as rassuré. Tu nous rassures aussi. On te retrouvera dans une combinaison et au volant d'une voiture la saison prochaine. Il n'y a pas d'envie de, je sais pas moi, d'arrêter parce qu'on sait aussi que tu veux t'intéresser. Bien sûr que tu veux donner plus de temps à ta famille, à ton petit garçon, et puis t'es pas prêt de t'arrêter quand même. Tu es toujours là avec Julien.
Je suis beaucoup plus relax par rapport à la situation, et qu'aujourd'hui je sens plus, on va dire, c'est plus une nécessité de continuer, on va dire. Maintenant, c'est sûr que l'envie, elle est quand même toujours là, que je prends du plaisir, et que si j'ai l'option qui me convient, je pense que je suis capable de faire encore des belles choses, et que ça vaut le coup d'essayer de continuer encore un peu. Maintenant, si tous les paramètres sont pas réunis, je pourrais envisager de faire autre chose, ça c'est sûr. Mm-hmm. Mais l'envie est là, et comme je dis, voilà, je pense que dans 2 semaines, je serai capable de vous en dire plus.
Bon, bah écoute, nous on le notons. On est, oui, l'envie est là, tu me rassures, mais voilà. Ça, je n'en doutais pas trop.
Je voudrais aussi quand même.
Dernière question, Patrick.
Oui, parce que je voudrais juste quand même associer Julien, puisque oui, c'est vrai qu'on t'a au téléphone depuis une vingtaine de minutes. On est vraiment très heureux de t'avoir eu.
Julien Gracia, donc de Julien.
C'est un plaisir de parler avec vous.
Voilà, non mais. Julien Gracia, il faut le saluer, il faut et lui dire bravo aussi pour ton 5e titre de champion.
Ah mais lui non plus n'échappera pas semaines qui viennent à l'invitation,
hein. Parce que vous êtes deux dans l'auto et c'est à deux que ça fonctionne.
Et c'est un duo légendaire d'ores et déjà, voilà. Bien sûr. Bon bah écoute Sébastien.
Exactement. Sans lui, rien ne serait possible, et c'est sûr qu'il faut pas l'oublier du tout. Il a été exemplaire une fois de plus cette année, aucune erreur, et bien sûr qu'il y est pour beaucoup dans cette dans cette victoire à nouveau.
Sébastien Ogier, donc, on te remercie, mais alors vraiment mille fois de t'être libéré pour nous, pour réagir, j'allais dire presque à chaud. Bon, voilà, bah oui, il y a 5-6 jours qui se sont passés, mais je pense que tu y penses encore très très fort. Et nous aussi, tu sais qu'au niveau du sport automobile français, bah, c'est très important ce que tu viens de faire, et c'est mythique d'ores et déjà, je te le dis. Et vraiment, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Seb.
Merci, merci Sébastien. Merci pour l'accueil, et puis on se reparle bientôt.
Voilà, c'est ça. Bon, déjà, on parlera de l'Australie dans 15 jours et on attendra la décision dont tu nous as parlé aujourd'hui et qui tombera donc à ce moment-là. Voilà. Merci, Seb.
Merci.
Très bien, à bientôt. Bon dimanche. Salut.
Voilà. Ah, j'aime ce genre d'émission où un quintuple champion du monde nous fait l'amitié d'être présent. Mais allez, c'est pas pour se passer ou stresser quelques lauriers, mais ça fait 9 ans quand même qu'on suit Sébastien Ogier. Et j'ose dire, et là je rends hommage à Éric Briquet qui avait été le premier un petit peu à m'alerter sur Sébastien Ogier. Bah oui. On sentait bien que sous l'aube, j'allais dire percé au JT.
Rappelle-toi que sur notre antenne, à l'époque, ses débuts, nous avons fait des reportages sur lui quand il a gagné le volant Peugeot, qu'il a lancé pleinement vers le sport automobile.
Tout à fait. Patrick, tu vas rester avec nous parce qu'en fin d'émission, je voudrais que tu me parles du championnat du monde d'endurance, les 6 heures de Shanghai qui ont eu lieu cette nuit et que, en plus, tu as commenté. Donc, tu tiens le coup. Bravo à toi. On va juste parler de Formule 1 entre temps. Hein. Tu m'autorises. Motors continue. À tout de suite.
RMC Motors avec Motorsport TV. RMC Motors. Laurent-Frédéric Bollet.
Il est 13h28 sur RMC C'est Motors jusqu'à 14h. On va retourner rapidement au rugby. La 9e journée du top 14, Brive contre le Stade Français. Julien Tellier sur place. Où en est-on, Julien?
C'est la mi-temps à Brive et à la pause. Eh bien, les Brivistes qui étaient menés 14-3 à un moment de cette rencontre sont revenus finalement pas très loin des Parisiens. 14-10 désormais à la pause entre les deux équipes, à l'avantage du Stade Français évidemment. Mais les Brivistes avaient une touche à l'ultime minute de cette première période. Ils ont choisi, ils auraient pu la tenter. Elle était à 40 mètres. C'était dans les cordes de Gaëtan Germain. Mais ils ont choisi d'aller en touche justement sur cette pénalité. Une touche bien captée et ensuite. Ensuite, après un bon travail des avants, c'est le 3/4 de Thomas Larangera qui était là à aplatir le premier essai Brivistes transformé par Gaëtan Germain. Et donc les Brivistes qui sont revenus sur les talons de Paris à la reprise de cette seconde période dans quelques minutes. Paris mène 14-10 sur la pelouse du CR Brive Corrèze.
Ok Julien, on voit effectivement que le score a évolué.
RMC Motors dans le rétro.
Allez, dans le rétro, et j'accueille Monsieur Jean-Luc Roy qui est avec nous aussi en direct pour parler de F1. Salut Jean-Luc.
Oui, salut LFB, bonjour à tous.
Bon, bah écoute, nous avons réservé aujourd'hui la priorité à Sébastien Ogier. Tu n'en prendras pas ombrage.
Ah bah non seulement je n'en prends pas ombrage, mais je m'en réjouis. Écoute, depuis le temps qu'on l'a dans l'émission, toi et moi, je sais plus combien de temps, puisque tu t'es plongé dans les archives, on l'a fait intervenir, mais bon, c'est vrai qu'à l'occasion.
Ça fait 9 ans et demi même, tu vois.
Oui, je parlais en nombre de fois, et oui, à chaque fois, c'était évidemment pour des bonnes choses, ou célébrer des victoires, ou célébrer des titres, donc c'est effectivement, on a toujours du mal à prendre du recul, mais c'est vrai que c'est un très grand champion et j'ai écouté tout ce qu'il a dit, certainement son plus beau titre parce qu'il a dû se battre peut-être plus que les autres fois pour le décrocher, donc hommage à lui. En plus c'est un type hyper sympa, hyper simple et ça fait vraiment plaisir et c'est bien de ne pas avoir oublié Julien. J'avais peur que vous l'oubliez, tu vois, je me suis dit quand même ils vont dire un mot de Julien Ingrassia.
Oui mais c'est vrai qu'effectivement il ne faut pas oublier Julien Ingrassia copilote. Alors il n'y a que un pilote dans chaque monoplace de Formule 1, là c'est vrai que ça change et le hasard a voulu que ce soit aussi le week-end dernier que le champion du monde de l'année 2017 soit désigné. Et donc tu as célébré Jean-Luc le 4e titre dans la carrière de Lewis Hamilton à l'issue d'un Grand Prix du Mexique assez intéressant où il n'a pris que la 9e place. Et d'ailleurs c'est paradoxal, c'est son plus mauvais résultat de l'année et c'est pourtant le Grand Prix qui lui permet d'être champion du monde. Est-ce que tu crois que ça lui a plu d'ailleurs ça?
Indubitablement non, puisqu'il avait annoncé la couleur, il aurait aimé triompher et remporter ce titre effectivement en montant à minima sur le podium et en remportant la victoire. Je crois que Seb l'a très bien expliqué, Seb Ogier, il y a un instant. Un grand champion, lui, ce qu'il aime, c'est gagner avant tout et célébrer un titre. Rien n'est mieux. Je pense d'ailleurs que c'est le cas de Seb Ogier. S'il avait pu triompher, effectivement, comme vous l'avez aussi commenté avec Patrick, c'est que y a pas de meilleure manière que de célébrer un titre. Donc non, ça ne lui a pas plu. Maintenant, on sait pourquoi. C'était un incident, un accident, une friction au début, qu'il a relégué dernier de ce Grand Prix. Il a fait ce qu'il a pu pour remonter. Et puis, il était surtout tributaire. Bon, lui, il devait faire évidemment un minimum, mais des résultats de Vettel, et comme Vettel s'est évidemment trouvé impliqué dans cet accrochage, et ben après il fallait qu'il gère. Mais non, c'est pas le type de titre qu'il aurait aimé décrocher comme ça, c'est sûr.
Alors justement, il l'a confié hein, au micro de Louis Hamar, Lewis Hamilton lui-même qui revient sur son titre.
Ça a été la course la plus dure, vraiment ça a été dur. Après la crevaison au départ, il fallait repartir de derrière, et même si je n'ai pas gagné ce Grand Prix, ça rend ce titre magnifique. En plus, le remporter ici au Mexique, dans cette ambiance, je suis très reconnaissant envers mes fans, tous ces supporters qui me suivent dans le monde entier, et envers mon équipe qui a toujours cru en moi, envers tous ceux qui m'ont accompagné depuis le début et qui ont fait d'énormes sacrifices. Je veux vraiment tous les remercier aujourd'hui.
Voilà, on va dire que tout est bien qui finit bien. C'est bien Lewis Hamilton qui est champion du monde. Honnêtement, Jean-Luc, ça faisait quand même quelques grands prix qu'on n'en doutait plus.
Écoute, il avait une très très belle option, effectivement, depuis la reprise de l'été, après le break, hein, où les deux pilotes se battaient vraiment à coups de poing jusqu'au Grand Prix de Hongrie, de poing, je m'entends, de poing, P-O-I-N-T-S,
c'est ça.
Heureusement, même si, bon, l'ambiance a été tendue, notamment en Azerbaïdjan, mais on a bien vu que Hamilton était en train de prendre le pas, et surtout, Vettel et l'équipe Ferrari ont commis des erreurs terribles, et à ce niveau de compétition, on ne peut pas commettre d'erreurs notables. Donc Lewis est titré et ça n'est que justice. Encore une fois, tu le rappelais aussi rapidement, avec les 11 pole positions, les 9 victoires. Et c'est pas terminé, hein, il en reste 2. C'est une saison magnifique. Puis je regardais, tu sais aussi, j'aime pas trop moi toujours opposer les chiffres parce qu'il faut tout mettre en perspective. Mais quand même, avec le nombre de victoires et de pôles, puisque c'est le principal, hein, 72 pole positions, et il est devant. Personne n'est plus devant lui. 62 victoires, il n'y a plus que Michael Schumacher avec 91. 4 titres, on l'a dit et redit, il est au niveau d'Alain Prost et de Sébastien Vettel. Non, bah, c'est une légende qui est en train de se bâtir. Enfin, c'est déjà une légende. Le plus grand champion du sport automobile britannique en Formule 1. Puisque, bon, on rappelle que c'est Mike Hawthorn qui avait remporté le premier Grand Prix en 58. Il y a eu Graham Hill, Jim Clark, John Surtees. Enfin, évidemment, Nigel Mansell, Jackie Stewart dans les Britanniques. Et puis j'oublierai pas James Hunt, évidemment. Donc on va dire que il est déjà le plus grand champion de Formule 1 d'Europe, très probablement, avec le nombre de victoires. Et puis il n'y en a plus qu'un devant lui sur certains critères, pas tous.
Tiens, bah justement, tu as employé le mot légende. Eh bien, tu n'es pas le seul à l'employer. Pierre Gasly, là aussi au micro de Louis Hamar la semaine dernière, est revenu sur le titre de Lewis Hamilton.
C'est une légende de la Formule 1 et c'est un des seuls pilotes qui est capable de mettre des écarts pareils en qualification avec son coéquipier. Donc c'est un pilote qui est hyper, hyper talentueux, hyper rapide et il le prouve avec les stats qu'il a, avec toutes les pole positions et les victoires. Je pense que quand il est dans son jour, c'est vraiment très, très compliqué de le battre.
Voilà, l'hommage plus que fair play hein, de Pierre Gasly, notre nouveau français de la Formule 1 qui parle de Lewis Hamilton. C'est une légende de la Formule 1. On va juste faire un petit détour par Le Havre parce que ça y est, on y est, 13h35. Camille Gélpier, notre envoyé spécial pour le départ de la Transat, oui. Jacques Vabre. Alors Camille, ça y est, c'est le moment M.
Ouais, tous les bateaux sont lancés là et s'apprêtent à passer la ligne de départ imaginaire entre le bateau comité et la bouée. Et c'est justement le maxi trimaran de Thomas Coville, recordman autour du monde, qui vient à l'instant de passer cette bouée, le bateau Sodebo. Donc on rappelle qu'il y a 4 catégories dans cette course, hein, dans cette transatlantique. 3 bateaux qui sont les plus rapides, qui sont ces géants des mers, donc les maxi trimarans avec Sodebo de Thomas Coville, Prince de Bretagne de Lyon. Le Monchois et puis le favori de la Sébastien Josse qui a les toutes dernières technologies et qui peut quasiment voler sur l'eau. Ensuite il y a les Multi 50 qui sont d'autres multicoques et puis derrière les Imoca qui sont les bateaux du Vendée Globe. Là la compétition sera très serrée, mais c'est Virbach Paprec de Jean-Pierre Dick qui a passé la ligne en premier et puis derrière les petits classes 40 des petits monocoques qui eux vont mettre 3 semaines à arriver jusqu'au Brésil. Mais par contre pour les 3 maxi trimarans, d'ici 8 jours ils pourraient déjà être à Salvador de Bahia au Brésil. Et ça y est, donc tous les bateaux sont partis.
Et bien voilà, on cherchait un point commun. Merci Camille. Hein. On cherchait un point commun entre la voile et la Formule 1. Bah, direction le Brésil pour tout le monde.
Exactement.
Parce que hein, Patrick, tu confirmes, Jean-Luc aussi. Ça se trouve, Jean-Luc, tu vas aller au Brésil et tu vas commenter non pas du tout le Grand Prix du Brésil le week-end prochain, mais l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. En tout cas, ce sera bien au même pays, le Grand Prix du Brésil dimanche prochain. Avant de revenir sur ce Grand Prix, Jean-Luc, tu parlais donc que Lewis Hamilton est d'ores et déjà une légende de son sport. Ça, je crois que tu as tout à fait raison. c'est peut-être au niveau du style. Est-ce que c'est au niveau du pilotage ou de la personnalité? Mais comment tu places un Lewis Hamilton tel qu'on le connaît en 2017 par rapport à un Alain Prost, un Michael Schumacher en son temps, tu vois, au-delà des chiffres, effectivement?
Alors là, c'est toujours un sujet qui est extrêmement délicat parce que le subjectif, évidemment, prend le pas sur l'objectif. On a beaucoup parlé des chiffres et des résultats parce que je rappelle qu'il faut mettre en perspective les résultats, le nombre de victoires et de pôles avec le nombre de grands prix disputés. Évidemment, c'est quand même très important. Lewis en est à 206. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est qu'à ce niveau-là, il est au niveau des Rosberg, en gros. C'est ça qui est, ça qui est amusant puisque Nico Rosberg a fait 206 grands prix. Tu vois, donc voilà. Ouais. Donc on est à peu près au même niveau avec, bon, pas le même nombre de victoires. Alors, tu parlais de l'aspect subjectif. Bah écoute, moi je crois qu'il est bien dans son temps. Et encore une fois, j'aime le rappeler très souvent sur RMC. À partir du moment où on considère que c'est un jeune homme, hein, il aura 33 ans au début du mois de janvier, qui profite de la vie maintenant... Un peu, je vais oser le parallèle à la manière d'un James Hunt. C'était un Britannique en 1976. Et puis tout le monde a vu effectivement ce film Rush, hein, qui l'opposait à l'époque à Niki Lauda, surnommé l'ordinateur. Tu as parlé d'Alain Prost, le professeur. On parle de Magic Senna, comment l'oublier. Et effectivement, il a une personnalité qui est bien dans son temps. Il réagit et il agit. Et d'ailleurs, je pense qu'il fait beaucoup pour la Formule 1 auprès de certaines personnes qui ne s'y intéressaient pas forcément. Bah, c'est une rockstar, hein, clairement. D'ailleurs, il est ami avec des rockstars, il parcourt le monde avec son avion et il profite de la vie dans tous les bons sens du terme. Je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire, personne ne peut le juger. Alors il y avait eu cette petite remontrance, on va dire, d'une partie du public et de ses pairs. Tu sais qu'il y avait une journée organisée effectivement à Londres, en plein centre de Londres, avant le Grand Prix de Silverstone, puisqu'on est dans l'ambiance britannique. Il faut rappeler que c'est le premier Grand Prix qui ait jamais existé dans l'ère de la Formule 1 moderne, hein, le 13 mai 1950. C'était bien en Grande-Bretagne et c'était bien à Silverstone. Et donc ce grand raout, entre guillemets, pour que le public de Londres, et il y avait 100, 200 000 personnes, enfin il y avait un monde fou, le seul qui n'était pas là,
oui,
c'était Lewis Hamilton.
On en avait parlé, ça faisait, oui, c'était un peu embêtant quand même, c'est ça qu'on avait dit, quoi. C'est dommage, au moins.
Bah, petite faute dans la surface de réparation, on va dire, mais surtout pas pénalty, parce que effectivement, il y a que lui qui sait ce qu'il faisait, avec qui et comment, mais quand il est arrivé, pôle, victoire. Voilà la manière d'un champion de répondre en disant, bah oui, écoutez, ok, j'aurais peut-être dû être là. D'ailleurs, il l'a gentiment dit après, parce que les tabloïds britanniques, comme on dit, l'avaient taillé en disant c'est une honte, etc. Il a répondu de la meilleure des manières. Alors, un être parfait, non. Alors, c'est l'hommage de Bottas, tu vois, on a évoqué Bottas,
oui,
qui compte.
Ouais, j'allais t'en parler, c'est... ouais. Non, mais c'est la déclaration de Bottas. Ouais. C'est-à-dire que derrière, effectivement, peut-être le paraître, il y a un bourreau de travail, il y a une personne complètement déterminée avec un objectif. Il y a un tueur, même, j'ose le dire comme ça, entre guillemets. Hein. Mais effectivement, ça bosse et ça va dans un seul objectif. Et Bottas l'a peut-être découvert, à ses dépens en tout cas.
Absolument. Alors Bottas, il est loin d'avoir évidemment le palmarès de Lewis Hamilton. On rappelle quand même 95 Grands Prix. Mais seulement, et ça a été obtenu cette année, face à Hamilton, face au monstre Hamilton, 2 victoires, 2 pole positions, 2 meilleurs tours en course. C'est vrai que ça peut faire un peu faible. Et puis, on connaissait tous le talent de Bottas. Moi, j'avoue, oui, dans la première partie de la saison, je l'ai trouvé, non pas au niveau, mais je trouvais qu'il répondait bien. Mmh. Et puis là, on comprend qu'il y a une passe à vide, et ça démontre tout le talent, parce que Bottas dit, il travaille. Il en a pas l'air, j'allais dire, bah, parce qu'effectivement, il y a tout le folklore autour. Mais ça n'est pas grave. Quand il est sur le circuit avec son équipe, eh bien, c'est le meilleur. De toute façon, c'est indubitable, le meilleur pilote à gagner, encore une fois. Et il y a rien à dire de ce côté-là. Heureusement, on peut toujours invoquer tel ou tel problème ailleurs. Mais je crois que là, la Ferrari a été un long moment, pour ne pas dire tout le temps, au niveau de la Mercedes. L'équipe, on ne peut pas dire qu'elle manque de moyens. Le talent du pilote, Vettel, 4 fois champion du monde, quand même, il faut le rappeler. Donc, il y avait une vraie opposition. Et moi, c'est ça qui m'a plu aussi. C'est qu'on peut toujours suspecter au sein d'une même équipe, comme on se rappelle des duels avec Nico Rosberg, justement, qu'il a emporté l'an dernier. On peut se dire, ah oui, on privilégie un tel. Là, c'est évidemment pas le cas. Je suis persuadé que Bottas a le même matériel. Ben, on voit ce qu'il en fait.
Ouais, Bottas qui peut viser la place de vice-champion. Hein, il n'a que 15 points de retard sur Sébastien Vettel. J'ai envie de dire, alors ce sera un des enjeux majeurs du Grand Prix du Brésil le week-end prochain. Ben, si Vettel ne devait pas arriver à être vice-champion, là, ce serait vraiment le calice jusqu'à la ligne. Dernière question, Jean-Luc, parce qu'on pourrait passer des heures, mais bon, allez, le temps avance. France, hélas. Et je voudrais juste te faire part de la dernière grande nouvelle qui est tombée hier dans le monde de la Formule 1. Felipe Massa, ça y est, annonce qu'il n'ira pas au-delà de l'année 2017. Donc, c'est la retraite pour Felipe Massa. On sait que cette année, il avait rempilé en quelque sorte chez Williams. Est-ce que tu as une réaction ?
Déjà, hommage à ce très grand pilote, là aussi, 267 Grands Prix à ce jour, 11 victoires, 16 pole positions, 15 meilleurs tours en course, c'est quand même pas rien. Je crois que Massa, qui avait connu ce très grave accident, on s'en souvient, au Grand Prix de Hongrie en 2009, qui a mis quand même un coup d'arrêt à sa carrière, c'est une évidence, est quelqu'un qui mérite infiniment le respect, c'est un type bien, on le sait, il manquera à la Formule 1. Alors maintenant, je suis entre deux eaux, parce que on l'a rappelé un peu en catastrophe, on le sait bien, du côté de chez Williams, pour combler, entre guillemets, cette saison, puisqu'on a eu Bottas, on vient d'en parler, qui partait chez Mercedes.
Oui, parce que Rosberg, au dernier moment, ou en tout cas, de manière surprenante, avait annoncé ça. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un jeu de chaise musicale, en fait, c'est ça?
Chaise musicale. Mm-hmm. C'est exactement ça. Alors, il y avait eu des adieux extrêmement émouvants, notamment au Brésil. On se rappelle de cet abandon sous la pluie.
Oui, il y a un an.
Il remonte la voie des stands, voilà.
On va voir la même chose, ça se trouve.
Non, oui, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. C'était tellement beau, tellement émouvant, vraiment tellement émouvant, que là, c'est un peu, il va saluer son public aussi, mais on a l'impression d'une redite et forcément moins bien, ou sauf s'il remporte le Grand Prix, mais oui. Je n'y crois pas une seconde. Donc si tu veux, c'est presque une sortie, j'allais dire, par la petite porte. Et puis il avait dit à Williams, il faut qu'on me désire, il faut qu'on ait envie de moi. Malheureusement, chez Williams et pour Massa, on n'a pas eu envie de lui. Alors qui à la place de Massa? C'est la question que tu vas me poser.
Oui,
évidemment.
Mais tu vas y répondre en 30 secondes, pas plus.
Bon, et je sais pas. Bon, okay. Non, mais tu sais, on parle de beaucoup de monde. Il y a un tas de monde bruit qui circule, et même de Robert Kubica qui reviendrait à la Formule 1. Pourquoi pas, effectivement. Ce serait une très belle histoire aussi.
Ah oui.
Puis je crois qu'il y a tellement d'intérêt en jeu, là aussi, dans tous les sens du terme. On va bien voir. On le saura, là aussi, bon. Je pense très vite.
Oui.
Parce que,
c'est pas dit que tu le dises pas, que tu ne l'annonces pas aussi le week-end prochain, parce
c'est
que ça peut tomber très vite, ce genre de nouvelles. Bon, tout ça pour dire que sera Grand Prix du Brésil à vivre sur RMC, bien évidemment, en direct, avec des horaires sympas, 17h, qualif et course. Donc, ça va être sur un circuit qu'on aime bien tous, en plus, ça va être spectaculaire.
Ah bah oui, très spectaculaire, effectivement, dans la banlieue de São Paulo. Et là aussi, on sait qu'Ayrton Senna repose à quelques kilomètres de là, effectivement, dans le petit cimetière de Morumbi. Et tous ceux qui se sont rendus sur la tombe d'Ayrton Senna, et j'en faisais partie chaque année lors du Grand Prix du Brésil, auront une énorme pensée pour cet immense champion aussi, Ayrton Senna, 3 fois champion du monde. Donc effectivement, il y a tout un symbole là aussi.
Ok Jean-Luc, c'est bien noté. Bon bah allez, bonne semaine à toi, et on te retrouve donc dans quelques jours pour nous parler de ce Grand Prix du Brésil. Merci Jean-Luc.
Salut LFB, bonne fin d'émission.
Allez, et dans quelques instants, la dernière partie de Motors. À tout de suite.
RMC Motors. RMC jusqu'à 14h. Motors. Laurent-Frédéric Bollet.
Voilà, on a l'habitude de dire à ce moment-là de l'émission que c'est la dernière ligne droite. On va juste faire un petit détour, non pas par les stands, mais par le rugby. Et par le stade à Brive, Brive Stade Français. Julien Tellier, où en est-on?
54 minutes de jeu sur la pelouse de Brive. Le score n'a pas évolué depuis la reprise de la seconde période. Toujours le Stade Français devant, toujours 4 points d'avance pour les Parisiens qui mènent 14-10 sur la pelouse du CR Brive Corrèze. Les Brivistes qui essaient de réagir, mais il y a beaucoup trop de ballons perdus par les Brivistes. Et à l'instant là, la contre-attaque parisienne avec la passe, le départ de Charles McLeod, le demi-mêlée qui a voulu servir sur l'extérieur d'un de ses partenaires. La passe est imprécise. Ce sera une touche à venir, lancée à venir pour le CR Brive Corrèze. 14-10 pour le Stade Français ici à Brive. On joue depuis bientôt 55 minutes.
Merci Julien, on te retrouve évidemment tout à l'heure pour la fin de ce match.
RMC Motors.
World Champion! Oh my God! I can't believe it! Thank you so much guys!
Radio Paddock.
Je suis décidément bien entouré aujourd'hui. Patrick Rivet est toujours avec nous. Salut
oui,
Patrick.
Je ne me suis toujours pas entendu.
Non. Et pourtant, t'aurais de quoi. Tu vas tout nous dire. Et c'est Benoît Boutron qui est aussi avec nous. Salut Benoît.
Salut LFB. Salut Patrick.
Salut Radio Paddock. C'est la dernière chapitre de notre émission. On passe en revue un petit peu quelques nouvelles du monde des sports
exactement,
mécaniques.
Exactement. Les infos de la semaine et l'actu chaude. Vous avez vu ça. On a un Français champion du monde. C'est du super sport.
Un autre.
Il s'agit de Julien Mayas. On parlera de l'autre tout à l'heure. Oui. Mais Julien Mayas est donc champion.
Lucas Mayas. Champion du monde super sport.
Exactement. Et c'est une belle performance. C'était pas arrivé depuis 2006.
Absolument.
Sébastien Charpentier,
effectivement, qui était le précédent.
Et vous avez vu qu'il a devancé sur la ligne Jules Cluzel, doublé français au Qatar. Ouais. 23 millième d'écart entre les deux.
Et ce qui est assez drôle, c'est que j'ai regardé un petit peu les stats de sa saison. Il a fait 12 courses, 9 podiums. Il a pas fait beaucoup de victoires, mais 9 podiums, en fait.
Tu sais que.
Comme Sébastien Ogier, c'est un peu la régularité.
Exactement. Les fameuses 12, le rapport 9 sur 12.
Exactement.
Exactement identique à celui de Sébastien Ogier.
Bon, moi, de toute façon, je lance un appel à Lucas Mayas et son entourage qu'ils se tiennent prêts aussi à répondre dans Motors assez vite parce que, voilà, un champion du monde, ça doit se fêter. Il n'échappera pas lui aussi à son invitation.
Alors, on va parler de Porsche, évidemment. C'est l'autre info de la matinée. Là aussi, on a un champion du monde français. On peut en parler d'ailleurs. On va y revenir. Mais effectivement, l'info à retenir, c'est que Porsche décroche le titre mondial d'endurance. Même s'il n'y a pas eu de victoire, Patrick, tu es bien placé pour le savoir. Tu as commenté la course.
Absolument.
Pas eu de victoire ce matin, mais l'essentiel était là.
Oui.
Il fallait terminer dans les trois et Porsche a terminé deuxième.
Deuxième et troisième.
Et
a passé ces deux voitures sur le podium. Alors, au niveau du classement pilote, c'était quasi sûr que ce serait au terme de cette course à Shanghai. Donc, effectivement.
Les 6 heures de Shanghai.
Avant-dernièrement,
champion du monde d'endurance.
11h, 17h sur place, c'est-à-dire 4h, 10h chez nous. Et nous avons effectivement.
Donc, la médaille pour Patrick, qui a commenté.
La joie de la commenter en direct sur notre antenne de Motorsport TV avec Paul Louchatin et Fabien Gérard. Donc, effectivement. Alors, cette course, elle s'est jouée pour la gagne d'une façon assez étonnante. D'abord, il y a eu domination des Toyota.
Bon.
C'est-à-dire que on a un championnat qui est assez bizarre à ce niveau-là. Vous avez Porsche qui gagne Le Mans, Toyota qui gagne les deux premières courses de la saison, Porsche qui gagne Le Mans.
Et les trois qui ont suivi.
Et les trois qui ont suivi. Et on se demande où se trouve Toyota. Ben, Toyota se trouve prêt à rebondir puisque la course au Japon au Fuji est remportée par doublé Toyota. Et là, on n'était pas loin. Du doublé de Toyota, ce qui aurait pour un demi-point reporté la conclusion du championnat à Bahreïn pour la toute dernière course de la saison. Mais il y a eu un accrochage entre José María López sur une des deux Toyota et sur avec la Porsche de Richard Litz. Et ça a permis aux Porsche de remonter d'un cran au résultat dans le
Donc c'est un double titre, Patrick. Constructeur,
c'est un double titre constructeur et
pilote avec le trio Bernard, Bamber, Hartley. Le Hartley, qui est bien le pilote de Formule 1 actuel.
Alors, c'est ça qui est étonnant aussi. Enfin, bravo à lui, Brendan Hartley, qui a à un moment donné était tout droit en ligne pour aller vers la Formule 1, qui d'un seul coup s'est trouvé sur une voie de garage. Il a rebondi en endurance. Il a été engagé par Porsche. Et si effectivement, comme on peut le supposer, il sera titulaire la saison prochaine chez Toro Rosso, il va y arriver avec un double titre de champion du monde d'endurance. C'est quand même sympa.
Et une victoire au Mans, d'ailleurs.
Oui, et
aussi.
Une victoire au Mans. Et c'est quand même sympa aussi de voir quand même que l'endurance peut aussi amener à la Formule 1 et non pas l'inverse, comme avec Marc Webber par exemple ou d'autres pilotes qui quelque part une fois passé les années en Formule 1 ont rebondi en endurance. Là, c'est l'inverse. Voilà.
C'est
grâce à ces saisons en endurance, en championnat du monde, que Brendan Hartley peut rebondir en Formule 1.
Pour en revenir à Porsche, qu'est-ce qu'il vaut ce titre pour toi? Qu'est-ce que ça vaut?
Ah oui, parce que moi j'aurais quelque chose à dire, mais vas-y Patrick, commence.
Le titre.
Tu me l'as dit, c'était assez disputé, mais finalement.
Oui,
c'est
alors
Porsche
le titre constructeur cette année a été plus que disputé, hein, puisqu'en gros on a à peu près le même nombre de victoires. Il y a eu 4 victoires Toyota et il y en a autant pratiquement de Porsche. En revanche, il y a cette victoire aux 24 heures du Mans qui compte double en termes comptables et qui met un petit peu la panique là-dedans parce que quand on a un championnat avec 9 courses, en avoir une dont les points comptent double,
ça conditionne tout.
Voilà, ça conditionne quasi tout. Et bon, Porsche a gagné des courses, certes. Bon, ce n'est pas un titre à la petite semaine. Hein, c'est un troisième titre successif pour Porsche depuis son retour en championnat du monde d'endurance en 4 saisons. C'est quand même pas mal. Donc non, il n'y a rien à dire sur ce titre constructeur. Le titre pilote, il a été un peu plus téléguidé depuis les stands.
C'est là que je vais intervenir et c'est là que je vais faire en quelque sorte le contradicteur. Mais je sais que Patrick est pas loin de penser quand même comme moi. Voilà, la victoire au Mans du trio Bernard ou Hartley Bamber a tout conditionné par la suite, car à ce moment-là, Porsche, qui en plus, quelques semaines après, a annoncé son départ de la discipline, ce qui a donc jeté un gros coup de froid sur la discipline, car quand vous savez que une des deux forces majeures va quitter la discipline, vous imaginez l'ambiance, ça a un peu refroidi tout le monde. Bon, mais si en plus, la dite équipe arrange le résultat, allez, je dis ça avec des guillemets, mais c'est un petit peu ça, parce qu'il y a eu des consignes d'équipe, Patrick. pour au moins trois courses consécutives pour faire gagner l'équipage qui avait gagné Le Mans.
Tu aurais pu faire un scandale dans n'importe quelle autre discipline.
Oui, oui c'est vrai que c'est un petit peu passé inaperçu. Ouais. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout à fait logique.
Des fois, ça s'est passé même de manière
Un Nürburgring, c'était carrément scandaleux, on peut le dire. Mais bon, c'est pour ça que le titre constructeur, à mon sens, on n'a pas à contester le titre constructeur de Porsche. Quand même, Toyota, quelque part, s'est encore planté avec la défaite au Mans.
Oui.
Elle coûte cher à tous les niveaux. Elle coûte cher sur le plan du championnat. Elle coûte cher aussi un petit peu aussi au niveau de l'image. Si Toyota se retrouve sans adversaire direct la saison prochaine et remporte les 24 heures du Mans, la saveur ne sera pas tout à fait la même. Mais je te rejoins complètement. Oui. C'est vrai que moi j'ai encore cette image aux 24 heures du Mans d'André Lotterer sur l'autre Porsche, un pilote qui vient d'Audi et qui était sur la Porsche numéro
et qui était en tête,
numéro 1, au moment où la voiture abandonne. 24 heures du Mans dans la matinée, vers 10 heures du matin, on le voit pleurer avec les commissaires. Il a essayé de tout faire pour ramener sa voiture, il n'y arrive pas. On aurait presque pu penser qu'avec un peu d'humanité, au contraire, au Nürburgring, l'équipe Porsche décide que ça soit non pas la 2, mais la numéro 1 qui remporte la course, histoire de remettre un petit peu cette équipe dans le jeu. Au contraire, on l'a complètement sorti par le résultat du Nürburgring.
Oui, on a encore plus enfoncé la
tête sous l'eau.
C'est ce qui dérange dans les sports auto régulièrement. Après, il n'y a pas forcément
c'est un débat régulier, récurrent. C'est vrai qu'en Formule 1, cette année, on peut pas trop se plaindre.
Souvenez-vous, dernier Grand Prix MotoGP, on a les deux Ducati en tête, avec Lorenzo qui est leader du Grand Prix et Dovizioso qui est derrière, Dovizioso qui est à la lutte pour le titre avec Marc Marquez évidemment. On se dit mais est-ce qu'il va le laisser passer? Heureusement pour l'histoire et heureusement pour Ducati, Lorenzo a fait une faute et Dovizioso est passé, mais Lorenzo aurait très bien pu aller chercher la victoire et priver de points son coéquipier chez Ducati.
Donc d'ailleurs cette finale du championnat du monde MotoGP à suivre aussi sur notre antenne le week-end prochain à Valence, ça va être passionnant. Tu avais peut-être
un dernier sujet, parce qu'on parle de rallye toutes les semaines. On a eu Sébastien Ogier, c'était très bien, il nous a donné quelques informations, même s'il a du mal à parler de son avenir, on en saura plus dans 15 jours en Australie. Parlons de Sébastien Loeb, puisqu'on a appris cette semaine l'arrêt de Peugeot au niveau du Dakar. Ils feront le Dakar 2018. Après, c'est terminé. Donc,
c'est
plus de Dakar, en tout cas, plus d'écurie pour Loeb pour participer au Dakar. Que va-t-il faire, messieurs, à votre avis, en 2018?
Il a un programme officiel, Patrick, on est d'accord.
Il a un programme officiel Peugeot, qui est celui du championnat du monde de rallycross. Et Peugeot a décidé de renforcer sa présence dans ce championnat. Après, on va dire, la défaite subie face à Volkswagen. Je rappelle que Volkswagen, ancienne équipe de Sébastien Ogier, donc on reste dans notre petit milieu du jour, et a décidé de raccrocher le WRC à la fin de la saison dernière et a mis pas mal des compétences techniques de Volkswagen Motorsport sur le programme championnat du monde des rallycross, et ça s'est traduit par la domination de la marque Volkswagen dans ce championnat. Et donc Peugeot se voit entre guillemets dans l'obligation, on va dire, de réagir, surtout quand on a un équipage des bons pilotes comme la famille Hansen et puis bien sûr Sébastien Loeb. On se doit de lui donner le meilleur matériel possible pour aller se battre face à Peter Solberg ou à Christopherson. Donc Peugeot, le programme premier de Peugeot en 2018, c'est le championnat du monde de rallycross.
Bon, mais puisque nous parlons de Sébastien Loeb, ça veut donc dire quoi? Qu'il n'a plus qu'une possibilité pour gagner le Dakar,
c'est
en 2018. Oui. Après, il a effectivement un programme complet en rallycross, mais il y a toujours cette incertitude sur le WRC.
Oui.
Et tout à l'heure, je te cache pas que j'ai cru que Sébastien Ogier allait nous révéler qu'il allait quand même le retrouver sur quelques manches.
C'est ça qui est intéressant aussi dans le pilote Sébastien Loeb, et c'est intéressant parce que pour la première fois, on a un pilote qui n'est pas un pilote qui est associé à une marque, mais est associé à un groupe. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Il y a Peugeot et Citroën. Eh bien, Sébastien Loeb, c'est un pilote PSA. On peut le dire comme ça. Il court pour Peugeot. Il va donc avoir son programme. Et il le dit lui-même. Ce sera mon programme prioritaire, le championnat du monde de rallycross. Mais il n'empêche que sous ses anciennes couleurs de Citroën, on aimerait bien le revoir en rallye. Et il se murmure, et c'est peut-être même quasi sûr, qu'on pourrait carrément le voir au Monte Carlo, c'est-à-dire il va passer du sable à la neige
en quelques jours.
En quelques jours, il le dit lui-même, je serai pas tout à fait en état physique, mais le challenge en vaut peut-être la chandelle. Il nous dit 2-3 rallyes peut-être ou peut-être un petit peu plus.
Mais avec en filigrane toujours la question de la cohabitation éventuelle avec Sébastien Ogier. Dans 15 jours, je prends le pari que dans 15 jours on sait. Voilà. Pour le reste, on en reparlera. Bon, merci Benoît, merci Patrick. évidemment, on pourrait continuer de débattre pendant longtemps, mais il faut bien que Motor s'arrête et il faut bien que Jean-Christophe Drouet nous remplace pour l'Intégral Sport. Salut Jean-Christophe.
Salut Laurent Frédéric.
Qu'as-tu au menu aujourd'hui?
Je suis très heureux d'être avec toi, j'adore les prénoms composés, ça tombe bien.
On est d'accord.
L'Intégral Sport avec notamment de la Ligue 1 avec deux matchs sous haute tension à 17h, Marseille-Caen avec Antoine Defond, évidemment l'affaire Patrice Evra. Ce match très très chaud en bas du classement entre Metz et Lille, et puis on montera doucement en température avant le 115e derby entre Saint-Étienne et Lyon. Allez, à tout de suite pour l'Intégral Sport.